E-Radio, l'invité de la rédaction de Lille.
Vladimir Fedorovski, j'étais un influent diplomate sur Gorbatchev, un des fossoyeurs de la guerre froide, et maintenant je suis écrivain d'origine à la fois russe et ukrainien, parce que ma mère était russe et mon père était grand ukrainien. Disons l'écrivain d'origine russo-ukrainien le plus édité en Europe. Je suis venu présenter mon livre. Vous savez, j'écris beaucoup de livres, une cinquantaine de livres, mais c'est un livre assez important qui est maintenant à la tête des listes de best-sellers, qui s'appelle « Poutine, Ukraine, les faces cachées ». Ce livre donne des clés pour déchiffrer la situation très dangereuse qui se passe devant nos yeux. Je suis absolument anéanti par cette situation parce que, à la fois avec mes origines russes et ukrainiennes, mais aussi parce que toute ma vie, j'ai travaillé pour la paix et pour la sortie de la guerre froide. Et la guerre froide, aujourd'hui, revient avec éclat. Je considère qu'on vit un des moments des plus dangereux de l'histoire de l'humanité, parce que, vous savez, il y a un mélange de genres aujourd'hui, un mélange entre la propagande et la politique réelle, un nouveau rideau de fer qui est en train de s'installer. Poutine a renforcé l'OTAN, mais l'OTAN, en quelque sorte, a renforcé Poutine en le jetant dans les bras de la Chine. Tout ça, c'est très dangereux. Il y a aussi des symboles de rupture, vous savez, entre les civilisationnels, entre la Russie et l'Occident. Et pour moi, c'est un drame, parce que j'étais toujours un trait d'union intellectuelle, même, entre la Russie et l'Occident. Vous comprenez, le symbole de ça, c'est l'interdiction aux États-Unis, par exemple, de Tchaïkovski, de jouer Tchaïkovski, ou les Italiens, l'Université de Milan, interdit Dostoïevski. Tout ça, c'est symbolique, et ça, c'est quelque chose d'assez dangereux.
Ça a alimenté la colère peut-être de Vladimir Poutine aujourd'hui contre l'Occident, tous ces symboles?
Ça c'est plus compliqué, c'est une chose qui était, vous comprenez, qui remonte à la fin du communisme, parce que nous avons réussi, quand j'étais avec Gorbatchev, autrefois avec Mitterrand, avec beaucoup de gens, là-bas, on a réussi la sortie du communisme. Mais après la sortie du communisme, il n'y avait pas de stratégie. Il y avait le sentiment, à tort ou à raison, des Russes qu'à l'époque, l'Occident ne voulait pas tuer le communisme, il voulait tuer la Russie. La Yougoslavie, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, tout ça, tous ces facteurs qui ont alimenté ça. Mais surtout, à l'intérieur, les Russes, ils ont vécu d'une manière assez dramatique, vous comprenez. Le post-communisme des années 90, c'est les pires années de l'histoire de la Russie. Les Russes les considèrent comme ça. Il y avait 250% de l'inflation à l'époque. Vous comprenez, tout ça, c'était le pays était volé comme jamais dans l'histoire économique mondiale. 2% de la population se sont emparés des richesses de la Russie, en le faisant partir d'ailleurs en Occident dans les proportions exorbitantes, 120 milliards de dollars par an, milliards de dollars par an passés en Occident, dans les banques occidentales. Tout ça, c'est anéanti quelque chose de très dangereux. Ça anéanti l'idée de l'alliance entre la Russie et l'Occident, qui aurait pu être ça. Vous savez, j'étais protagoniste de l'époque. Je connaissais les gens les plus sages. Et le plus grand ambassadeur américain, inventeur d'ailleurs de la CIA et de la théorie d'endiguement, théoricien de la guerre froide, qui s'appelait George Kent, il m'a dit le fait que l'Occident n'a pas associé à l'époque la Russie avec l'Occident, avec le monde libre, c'était la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ. Ça, c'était une chose qu'il faut comprendre. Ça remonte à ça. Et puis, enfin, il y avait des aspects militaires, des aspects humains. Vous savez, le plus grave pour moi, c'est surtout la rupture civilisationnelle. Parce que les Russes, aujourd'hui, ne désiraient pas, déjà depuis quelques années, ils ne désiraient pas l'Europe. Ils se sont réorientés vers l'Asie. Ils disaient que l'Europe est en train de s'islamiser, qu'elle a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes. Toutes ces choses-là qu'il faudra prendre compte. Mais aussi, il y a une évolution militaire que tout le monde reconnaît. Le président Macron, il a dit qu'on n'a pas pris suffisamment en compte les préoccupations russes dans le domaine de sécurité. C'est banal. Vous savez, je vais vous dire, il faut comprendre que l'installation à la frontière ukrainienne des fusées qui peuvent atteindre Moscou en 6 minutes, en 4 minutes, c'était inacceptable militairement pour les Russes. Bref, il y avait beaucoup de raisons pour ça. Ça ne justifie pas en aucunement, disons, Poutine. Ça, c'est... Moi, j'étais, vous savez, il faut comprendre que moi, j'étais historiquement le plus vrai critique de Poutine. Qu'en Occident, les gens travaillaient avec lui. J'écrivais, si vous connaissez mes œuvres, mes livres, un livre emblématique qui s'appelait « De Rasputin à Poutine », quand j'étais vraiment, j'ai prévu beaucoup de gens, je vous ai alerté. Mais simplement, dans le contexte actuel, je suis sur la ligne du président Macron. Pourquoi? Parce que le président Macron, dans sa démarche, il y avait deux aspects. Il y a un aspect solidarité, solidarité avec ses alliés, notamment avec les Américains, et solidarité avec le peuple ukrainien. Moi, je suis ukrainien, je suis très sensible, je vis ça comme une tragédie, évidemment, c'est bien. Mais il y a là-dedans aussi ce désir de sauvegarder le contact. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, le seul contact que l'Occident a avec les Russes, c'est le président Macron. Et le fait qu'il téléphone, il a téléphoné 18 fois, des heures entières, parler avec Poutine, je pense que c'est une chose sage. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, nous avons maintenant trois solutions, sérieusement parlant. Soit la guerre mondiale. Et c'est tout à fait possible, parce que le but de mon livre, c'est de donner les clés d'analyse de la situation, aussi les clés psychologiques. Je raconte, vous savez, ça se lit comme un roman policier, parce que je raconte aussi les clés psychologiques de Poutine, les clés géopolitiques. Mais là-dedans, il y a, je souligne, une chose évidente, il y a aujourd'hui les approximations de l'analyse dans la situation. Et cette approximation peut engendrer les erreurs vraiment de décision. Et les erreurs de décision peuvent engendrer la guerre mondiale. Comprenez, dérapage. La guerre mondiale, c'est une solution. Deuxième solution, c'est les sanctions. Je suis assez prudent par rapport aux sanctions, parce que je connais la résilience des Russes. L'autre jour, j'étais avec un ambassadeur américain, et je lui ai dit que ces gens-là qui prennent des décisions, ils doivent relire Tolstoï. Parce que la résilience des Russes, c'est énorme. Ils ont vécu, je vous ai raconté, les années 90, vous comprenez, quand ils ont vécu 10 fois moins bien que sous Poutine. Ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat, mais ils vont quand même survivre. Et la résilience du peuple russe est énorme. 27 millions dans la Deuxième Guerre mondiale. Quel peuple peut supporter ça? Vous comprenez? Et ça, c'est pour ça que je dis, faites attention. Il faut relire Tolstoï pour comprendre ça. Et mon ami ambassadeur américain, il a dit, non, il faut qu'il lise Tolstoï. C'est-à-dire, il a rigolé à propos de niveau, disons, de la culture générale des gens qui prennent les décisions. Mais au-delà de ça, vous comprenez, évidemment, les Russes, ils vont vivre des jours difficiles, il y a des difficultés. Mais si on ferme, comme ça se passe aujourd'hui, le robinet de gaz et de pétrole, dans ce cas-là, ça va provoquer inévitablement la crise en Allemagne qui va contaminer toute l'Europe. L'Europe sera obligée de vivre avec 14 degrés. L'hiver prochain. Et vous savez, les gens ici que je connais, que je suis pas certain qu'ils soient tellement contents de ça. Vous comprenez? Mais ce qui est beaucoup plus grave, que la crise peut être en boule de neige. Et avec la famine en Afrique, avec les réfugiés africains qui vont débarquer, tout ça, c'est les choses qu'il faut prendre. C'est pour ça que je suis assez prudent par rapport aux sanctions. Et qu'est-ce qu'il nous reste finalement? C'est la démarche du président Macron, c'est-à-dire être ferme sur les principes et aussi encourager ce qu'ils appellent la désescalade. Je suis bouleversé par ce que je vois à la télévision. Évidemment, pour moi, c'est une énorme tragédie parce que j'ai avec mes origines ukrainiennes, mais je salue, vraiment salue, une sorte de démarche de niveau d'un grand homme d'État, du président ukrainien, qui à ce moment-là, malgré l'émotion, il dit qu'il faut accélérer les négociations. Il n'y a pas d'autre solution que la solution de la sortie par le haut, solution négociée. Heureusement que j'ai un allié de taille, et c'est le président Macron.
Vous discutez avec lui?
Non, c'est pas ça. Je ne suis pas dans la politique. C'est un objectif. Moi, je pense que quand il dit qu'il faut faire distinction entre le peuple russe et les Poutine, quand il dit que ça m'a touché beaucoup quand à la télévision, il a dit que les artistes et les écrivains, modestement, ils sont messagers de la paix. C'est quelque chose de différent que la démarche de l'université de Milan qui interdit Dostoïevski. Et ça, j'apprécie beaucoup, c'est vrai.
Parfait, merci beaucoup monsieur Vladimir Fedorovski. Je rappelle que vous êtes un ancien diplomate sous Gorbatchev, effectivement dans les années 90. Merci beaucoup monsieur Fedorovski d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à nos questions sur Radio Lille.
C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur eradio.fr.